des livres plein les oreilles. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Clotilde Seuil en votre compagnie pour vous présenter des livres plein les oreilles. Et cette semaine, on va beaucoup parler de littérature jeunesse, adolescente, je dirais jeunes adultes, et également de littérature, de celle que l'on étudie, entre autres dans les universités et dans nos cégeps. Alors vous vous dites, oh mon Dieu, ça y est, elle a retrouvé Alexandre Dumas. Eh bien non, elle a avec elle, pour la seconde partie, Michaela Nicole. Et puis aussi, alors la reine, la vedette, les adolescents, la voix dans leur soupe, c'est Catherine Girard-Audet. Bonjour à toutes les deux. Également à l'émission aujourd'hui, Gérald Cousineau, bien sûr, le fidèle Gérald, et puis aussi Yannick Olassa en seconde partie de cette émission. Et on va commencer avec l'ami Gérald qui trépigne au bout du fil, qui dit « Bon alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah oh là là, là, bon, là elle est en retard. » Non, ça va ?
Bon, oui, ça va très bien, merci.
Oui.
Et vous-même ?
Bah oui, écoutez, pour l'âge, il ne faut pas se plaindre, ça pourrait être pire. Non, c'est une expression. C'est une expression, hein, on s'entend. Alors, mon petit Gérald, aujourd'hui, vous nous arrivez avec un livre de Philippe Arsenault.
Oui, un auteur que je n'avais jamais lu. En fait, le livre s'appelle « Ma sœur chasseresse ». C'est tout récent, hein. C'est sorti cette année, donc en 2017. Je l'ai trouvé au SQLA. C'est le deuxième roman seulement de Philippe Arsenault. Je n'ai pas lu le premier, je l'avoue. Et je dis tout de suite, Clotilde, que c'est fort bien lu, j'insiste, fort bien lu par le comédien Steve Berthelot.
Bon.
Sa voix colle vraiment très bien au texte d'Arsenault.
Aucun, on
alors,
aime ça, hein?
C'est un petit bonheur. Donc, ma sœur chasseresse, eh bien, nous avons un monsieur qui revient d'Asie, en fait, plus précisément de Chine, où il est toujours professeur de droit. En fait, c'est davantage professeur de français pour des étudiants chinois qui veulent éventuellement apprendre le français. Mm-hmm. Donc, professeur de droit, disons, en Chine. Il a une petite amie qui s'appelle Meng Wu. Excusez ma prononciation chinoise, je suis un novice en la matière.
Et moi donc.
Donc, il va venir au Québec pour 2 mois. Pourquoi? Parce qu'il a écrit un roman. Et pourquoi il a écrit un roman? C'est parce qu'il a besoin d'argent. Et pourquoi il a besoin d'argent? C'est parce qu'il veut se payer un appartement à Pékin et il veut payer une voiture, une Audi, rien de moins, à sa petite amie chinoise.
Mais depuis quand ça rapporte? Depuis quand ça rapporte d'écrire des livres?
Ben oui, il est un peu naïf, hein. Et bien le sien va marcher.
Ah.
Donc, il écrit un roman que lui-même juge d'une étonnante médiocrité. Alors, il vient au Québec et le roman, à sa grande surprise, a du succès. Il a écrit un roman canadien-français, mais il l'écrit en franglais.
Oh oui.
Donc, on ne sait pas trop dans quelle langue, mais ça marche. Ce qu'appelle le Gotha montréalais prend plaisir à lire ce livre. C'est un immense succès. Il est invité partout. Et là, il y a une scène, entre autres. Il est à Radio-Canada. On essaie de mettre un nom sur l'animatrice. Là, je ne le dirai pas, mais c'est tentant. Et là, c'est absolument savoureux parce que là, il se met à déblatérer sur ceux qu'il appelle les Canadiens français. Jamais, je crois, dans le roman, il ne parle de Québécois. Et là, il en remet, parce que, il faut dire tout de suite, son roman, que les gens prennent au premier degré, c'est une ironie qui dure à peu près 130 pages, mais les gens ne relèvent pas l'ironie. Mais lui, d'ailleurs, je souligne le titre du livre, « Putrescence Street ». Ça en dit beaucoup, ça. Putrescence Street.
Ça, c'est le nom du bouquin qui fait un succès.
Ce roman ironique a du succès et personne ne comprend l'ironie qu'il y a dans ce livre-là. Alors là, on l'invite partout. Il y a des entrevues savoureuses. Évidemment, il est guidé ici et là par une employée de la maison la maison d'édition. Mais je parlais de Radio-Canada, mais il n'y a pas que ça. Mais ce qu'on apprend très vite, c'est que ce monsieur-là a une hargne, littéralement, contre son pays d'origine. Il vit en Chine en Asie depuis 14 ans. De toute évidence, il est très bien là-bas, il est en amour. Il revient ici, et là, son roman lui sert carrément de prétexte à... Oh là, mon Dieu, c'est de la hargne, mais de la hargne au troisième degré. Il se met à taper sur les Canadiens français, encore une fois, pas les Québécois. Canadiens français qui, d'après lui, ont été emprisonnés dans le français par les curés et plus tard par les péquistes. Parce que je dis, le roman est contemporain. Hein. Parce qu'à un moment donné, il va parler du maire de Montréal, un certain Colin Madère. Tiens, ça nous dit quelque chose, ça. Colin Madère.
Elle est très bonne.
Et il se moque de Colin Madère. Il se moque, mais là, il est d'une méchanceté. Il se moque des gens tatoués. Il les compare à des pièces de viande qu'on voit dans les boucheries, littéralement. Il se moque des obèses. Mais là, oh là là, c'est d'une méchanceté. Mais je riais, moi, je suis beaucoup ri.
Oui, parce que c'est évidemment pas premier degré. Il faut surtout pas prendre ça comme ça.
Tout ça rentre dans son vaste dessein de se moquer des Canadiens français. Parce que là, il voit en nous, bien sûr, des gens qui sont prêts à céder leur culture pour la première venue. On est plein de gens. Il y a plein de gens tatoués, de gens obèses. Il y a des scènes où il voit des gens obèses se gavant de crème glacée. Il voit des gens en triporteur qui, à son avis, pourraient très bien marcher. Il tape sur les aspects sociaux. Il n'y a personne qui trouve grâce à ses yeux, sauf, et là, c'est l'essentiel du roman, dans un salon de massage, et oui, on ne parle pas de massothérapie, Clotilde, hein, on parle dans un salon de massage, il va rencontrer Catherine Tremblay, une étudiante en histoire, qui gagne sa vie comme on peut, hein, et gagne très bien sa vie d'ailleurs, donc étudiante en histoire, elle veut absolument retrouver le tombeau de Jeanne Mance. C'est une obsession chez elle. Alors, ils vont faire un tandem et ils vont se mettre à la recherche du tombeau. Donc, il faut aller dans l'hôtel Dieu, trouver la crypte, trouver la bonne porte. Ça, là, c'est incroyable comme histoire. Vraiment, là, on tombe dans le roman d'aventure. Je n'ai pas vérifié. Hein. Est-ce que c'est vrai que le tombeau de Jeanne Mance est toujours là? C'est
possible. Comment ça, vous ne l'avez pas vérifié? Gérald!
Oui, je sais.
Mais vous savez que
Jeanne Mance, c'est la cofondatrice de Ville-Marie avec Maisonneuve.
Oui.
Et ce n'était pas une religieuse, c'était une infirmière.
Absolument.
Mais les religieuses l'ont quand même inhumée dans leur crypte, qui était jusque-là réservée aux seules religieuses. Donc, est-ce qu'elle est toujours là? Ben, nos deux amis, parce que j'ai pas dit comment ils s'appelaient. C'est très drôle. Le monsieur s'appelle Roé, R-O-E, accent aigu. J'ai jamais vu un prénom pareil.
Ben non. Moi aussi. dans mes notes, je pensais que j'avais oublié une lettre et puis je cherchais.
Non.
Il s'appelle pas Rosé.
C'est bien ce qu'on nous écrit. Donc, Roé Liri, c'est le narrateur. On peut dire que c'est un alter ego de l'auteur. Donc, et la dame, Catherine Tremblay, vont vivre des aventures rocambolesques. Ils vont finir par trouver, pas le tombeau, mais tenez-vous bien, le cœur de Jeanne Mance, qui bien sûr est dans le formol. Et là, je ne vous dirai pas ce qu'ils vont faire avec le cœur. Je ne vous dirai pas si Roé va revenir en Chine, mais...
Un petit rognon. Ils vont faire un petit rognon de cœur.
C'est vrai, ça. Ça aurait été une idée, ça, pour l'auteur trop tard maintenant. Donc, je ne vous dirai pas la fin, mais c'est à la fois très drôle, d'une folle méchanceté, mais, attention, il y a des passages où on dirait que le narrateur a sa fibre nationaliste a refait surface. Oui, par exemple, il y a un passage que moi, j'ai carrément trouvé émouvant.
Oui,
parce que je ne vous ai pas dit que le narrateur vient de Latuc, en Haute-Mauricie, comme l'auteur d'ailleurs. Et ce monsieur, comme l'auteur, donc, a vécu en Chine, mais il y a un passage émouvant où il se rend à Latuc parce qu'il y a une sorte de messe commémorative de la mort d'un ancien camarade d'enfance qui s'est suicidé. Mais ce passage-là tranche nettement avec tout le reste. Là, c'est émouvant. Là, on a l'impression que le narrateur là, met sa hargne au vestiaire. Là, il rend hommage à l'ami disparu dont il ne comprend pas le suicide. Ça, c'est très beau. Et il y a un passage très drôle où il va chasser l'ours avec son père. Et comment appâter l'ours? Eh bien, il sème du pop-corn sucré. Je n'avais jamais vu ça encore. Comment appâter un ours? Ben oui, c'est vrai, les ours ont la dent sucrée.
Ben oui, c'est sûr.
Mais, ça pour dire, donc, il y a une bonne partie où il tape sur les Canadiens français, encore une fois, et non pas les Québécois. Par exemple, il va parler du référendum de 1995, et là, il fait l'éloge de Jacques Parizeau, et même du discours, rappelez-vous, le fameux discours qu'il a prononcé.
Évidemment, on y pense tout de suite, où il a dit que c'était de la faute des allophones.
Lui, il dit qu'il a dit exactement ce qu'il devait dire, et il va parler, encore méchamment, des veaux, de tous ces veaux qui avaient voté non. Bon, alors on devine de quel côté il penchait. Hein.
Mais est-ce que vous pensez que... Bon, évidemment, là, c'est son narrateur qui s'exprime comme ça, mais est-ce que vous pensez que M. Arsenault, Philippe, que je ne connais pas, a trouvé le moyen peut-être de faire passer. Mais il est peut-être pas loin de la vérité. De ce narrateur, est-ce que vous pensez?
Il y a des choses qui m'ont beaucoup fait rire et d'autres qui m'ont fait réfléchir, et même rire et réfléchir. Par exemple, les personnages, beaucoup de personnages parlent leur langue maternelle, donc le français, mais un français ici dans le roman caricatural, vraiment pauvre, d'une pauvreté extrême. Et là, on peut parler carrément de mollesse linguistique. Et j'ai bien aimé les passages où il s'interroge sur l'éducation qu'on a au Québec. Et cette volonté de, on dirait, de niveler par le bas. Ça, c'est déjà, j'ai déjà lu ça ailleurs.
Ouais,
mais
oh,
j'aime
bah
bien qu'on me rappelle
on
ça.
On le vit, d'ailleurs. On le vit quotidiennement, ça, oui.
Espèce de la période. C'est comme la formule « tous égaux, tous crétins ». Il s'érige contre cette idée que tout est relatif. Moi, je déteste cette formule. Ah, tout, tout vaut tout. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que Jean-Sébastien Bach, c'est pas meilleur que Metallica. Non, je regrette, mais c'est pas la même chose. Mais c'est pas, ça ne s'équivaut pas. C'est différent, c'est tout. Donc, il s'érige contre ça. Cette façon de penser facile, on adopte toujours les pensées. On se sent mal à l'aise parce que l'autre, qui est d'une autre culture, a sûrement raison plus que nous. Donc, toujours cette... Oh non, non, non. Ça, c'est vraiment un roman qui va... On va grincer des dents ou on va être emballé. Mais moi, je n'ai pas grincé des dents, j'ai beaucoup ri.
Bon, eh bien, écoutez, bravo. Mais le principal, c'est que ça ne nous laisse pas indifférents. Hein. C'est
oh
clair.
Non, ça, là, ça brasse la cage. Vraiment, je n'avais pas lu un roman comme ça depuis Belle Lurette. Mais j'encourage les gens parce que ça vaut la peine. On peut, encore une fois, être choqué par les propos du narrateur. Mais ça fait réfléchir.
Alors, Ma sœur chasseresse de Philippe...
Ma sœur, c'est bien sûr Catherine. Hein.
Oui, c'est ça, évidemment, qui chasse après.
Comme ça, d'ailleurs.
Alors, la sœur, Ma sœur chasseresse de Philippe Arsenault, évidemment, comme ça se prononce, avec un E, un E-A-U-L-T
vous
à la fin.
Vous répéterez 10 fois ce soir, Ma sœur chasseresse.
Oui, Ma sœur chasseresse.
Punition, là.
Mais merci beaucoup, Gérald Cousineau. Merci, Gérald. Passez une très belle fin de journée. On se retrouve avec plaisir sur les ondes, oui, dans quelques semaines. Salut.
Au plaisir.
Et je réalisais, parce que j'ai deux invités quand même assez jeunes autour de moi, que là déjà, quand on parlait du référendum de 95, y a des jeunes finalement qui était peut-être là, mais enfin, qui n'était peut-être pas complètement... Ben, vous, Catherine, peut-être, vous avez un souvenir.
Oui, j'ai un souvenir.
Hein, du référendum. Vous, Michaela, ça doit être...
Ben, plus ou moins.
Et
je ne suis pas allée voter.
Non, c'est ça, mais c'est là où on se dit que la vie passe. Ouais. Catherine Girard-Audet, bonjour.
Bonjour.
Catherine, j'ai été intriguée il y a quelques semaines. J'ai lu dans un journal, je pense que c'était La Presse Plus en ce qui me concerne, on a fait tout un papier sur vous. Et à l'occasion de la sortie du numéro 11 de La vie compliquée de Léa,
le dixième,
où on disait, Catherine Girard-Audet, que vous étiez littéralement la coqueluche des jeunes adolescentes et adolescents d'aujourd'hui, du moins en littérature. Et là, vous me faites une image, mais c'est beaucoup dire. Bah, écoutez, s'il y a un journaliste qui l'a écrit avant moi, c'est sûrement parce que c'est vrai.
Sûrement.
Et puis, si vous êtes rendu au 9e tome, c'est sûrement parce que les jeunes le réclament, au 10e même, c'est parce que les jeunes le réclament.
Oui, tout à fait. C'est juste un peu étonnant. Je le réalise peut-être plus justement dans les salons du livre, effectivement, que par rapport aux les filles qui viennent, qui font des files d'attente, qui sont prêtes à justement à attendre des heures, des fois avec leurs parents, les fêtes de semaine, pour avoir ma signature. Mais moi, j'écris dans mon bureau, chez moi. En pyjama, c'est pas... je fais pas des concerts de rockstar, donc c'est... En même temps, je trouve ça bien, pas juste pour moi, mais je trouve
ça
bien.
Mais qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous nourrit quand même?
C'est ce qui alimente mon écriture, c'est ce qui fait que Léa, ça fait... en fait, en janvier, ça va faire 6 ans qu'elle existe, et c'est ce qui fait que je dois un peu me surpasser de tombe en tombe. J'écris des hors-séries, en plus, je pars de mes personnages secondaires, j'écris une histoire sur eux. Aussi de me dépasser à ce niveau-là. Et c'est extrêmement nourrissant parce que justement, c'est pas... c'est tellement un métier de solitaire. Oui, je réalise que c'est une série qui fonctionne. Je le vois dans les chiffres, je le vois dans les palmarès. Mais de recevoir physiquement cet amour, c'est pas un prix que je m'attendais à recevoir. Non, ça vaut beaucoup plus que les sous.
Catherine, je voudrais revenir un petit peu sur votre parcours parce qu'il ne faut pas penser, elle écrit pour les jeunes, écriture facile. Je voudrais quand même revenir sur votre parcours. Vous avez obtenu un baccalauréat en littérature française, anglaise et espagnole.
Oui.
Pas mal, hein, bravo. Et en plus, vous avez obtenu un diplôme d'études supérieures en traduction de l'Université Concordia. Parce que, avant qu'on parle de cette Léa, Léa Olivier, et de sa vie, ma foi, fort complexe, il y a aussi une fille qui, effectivement, fait de la traduction. Vous avez traduit quoi? Dora, comment on appelle ça?
Dora l'exploratrice,
oui,
qui est aujourd'hui l'idole de ma fille de 3 ans. C'est très drôle. J'ai gardé les livres, heureusement. J'ai traduit Bob l'éponge, j'ai traduit pratiquement beaucoup de Disney. J'ai traduit Garfield, le fameux chat qui n'aime pas les lundis. Spider-Man pour les petits garçons. J'ai vraiment traduit beaucoup de livres pendant plusieurs années avant de changer de costume et devenir une auteure moi-même.
Et en plus, vous avez tenu, et peut-être encore, un courrier du cœur pour les ados.
Oui, j'ai
vous
tenu
le tenez
ça.
Encore?
Je le tiens en partie. Il fut une époque avant où Vrac TV avait plusieurs blogs en ligne.
Ouais.
Et j'étais une des rédactrices, donc je tenais un courrier du cœur en ligne sur Vrac TV. Et maintenant, je le tiens toujours dans la revue Cool, qui est une revue pour les adolescentes. Ça fait aussi 5-6 ans que je tiens mon courrier du cœur. Donc, les filles se confient à moi, me posent des questions et j'essaie de leur répondre du mieux que je peux.
Mais ça ne doit pas être évident tous les jours, Catherine. Hein?
Parce
que justement, trouver l'originalité, à un moment donné,
oui,
quand on est ado, une affaire du cœur, c'est une affaire du cœur. Parce que déjà, quand on est adulte, une affaire du cœur, c'est une affaire... Il y avait des fois où je lisais votre bouquin, on va en reparler, mais je me disais, tiens, il me semble que ma copine, une telle, elle me disait la même chose.
Mais on ne change pas. On ne change pas
tant. On ne change pas tant que ça.
Non, hein? Et de moi, quand j'étais adolescente, à maintenant non plus. Tu sais, souvent on dit, les jeunes ont changé, l'hypersexualisation... Pas vraiment.
Ouais,
chez certains, mais ça a toujours été comme ça. Ouais. Moi, je trouve que ce qui était vrai en 1980, il l'a été en 1990, il l'a été en 2000, et encore en 2017, honnêtement.
Mais Catherine Girard-Audet, avez-vous l'impression, vous, parce que vous avez été comme nous toutes et nous tous ici, enfants, adolescentes, avez-vous l'impression qu'il y avait un manque au niveau de la littérature et que vous avez voulu combler ce manque-là?
Tout à fait, oui.
Oui.
En tout cas, moi, personnellement, quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup de séries québécoises qui existaient. Ceux qui ont mon âge, je dois le dire, j'ai 35 ans. Donc, ceux qui ont mon âge de ma génération, il y avait La Courte Échelle, c'était tout.
Ah, c'est ça. Hein?
C'était tout. Okay. Qui faisait des livres pour adolescents. Mais sinon, je pense que je vais lui donner quand même, faut redonner à César. Il y a Inza Desjardins qui a créé Aurélie Laflamme.
Mm-hmm.
Et c'est elle un peu qui a parti le mouvement. Et moi, elle a laissé son personnage, j'ai un peu pris le flambeau.
Oui.
Puis depuis, là, il y en a des dizaines, mais effectivement, c'est génial parce que maintenant, il y a de la bonne littérature jeunesse au Québec qui se fait. C'est intéressant parce qu'on n'a plus besoin d'aller voir ailleurs. On peut... Tu sais, il y a tellement des bons auteurs ici. Pourquoi pas créer chez nous, en fait, et consommer chez nous?
Bien sûr. Je vais me tourner vers Michaela Nicole,
oui,
puisque vous avez eu la gentillesse d'être déjà avec nous pendant cette première partie. On va parler avec Michaela Nicole pour les gens qui auraient raté le début de l'émission. En seconde partie, je vais faire une entrevue avec Michaela. Elle a écrit 2 livres et dont le premier se retrouve déjà sur les bancs des écoles parce qu'il est étudié fréquemment dans nos cégeps et nos universités. Mais avant de faire des études en littérature, Michaela Nicole, avant d'écrire vous-même, Est-ce que vous étiez une adolescente qui lisiez et qu'est-ce que vous lisiez?
La période d'adolescence, pour moi, est plus floue au niveau de la lecture, mais je pense que j'ai passé, en fait, de lire beaucoup étant enfant.
Oui.
Donc, moi, je suis de la génération, presque exactement la génération d'Harry Potter, donc un peu plus jeune.
Oui.
Donc, on a passé de ça, qui est devenu quand même adolescent. Dans les derniers tomes, ça s'adresse aux adolescents. Et puis, au livre pour adultes, en fait.
Ouais,
donc, dans l'adolescence, j'ai pas de souvenirs de littérature adolescente très précis.
Et de littérature pour adultes? Très tôt, qu'est-ce que vous avez lu, Michaela Nicole?
Des choses comme Salinger, L'Attrape-cœur, des petits classiques plus... Qui se mélangent, en fait, on pourrait dire, et qui s'adressent dès l'âge des jeunes adultes. Jusqu'aux adultes, oui. Mais j'avais des parents qui poussaient vers ça aussi.
Ah oui, hein. Oui, ça aide, hein, quand on a des parents qui nous poussent vers la lecture. Est-ce que vos parents, Catherine Girard-Audet, vous poussaient vers la lecture?
Oui, puis chez nous, c'était bibliothèque ouverte. Donc, puis nous, on est 4 chez moi. Donc, des fois, il fallait un peu serrer celle de la ceinture parce que mon père, c'était important de payer l'université aux 4 enfants. Mais il y a une chose sur laquelle il n'y avait pas de problème, c'était acheter des livres. Moi, je suis originaire de Québec, mais je déménageais à Montréal, j'avais 12-13 ans, donc dans mon cœur, je suis devenue montréalaise. Mais à l'époque, quand j'étais enfant et qu'on venait à Montréal une fin de semaine, ils nous amenaient au Colisée du Livre, qui existe maintenant, qui a déménagé, je pense, sur Mont-Royal. Je ne sais pas s'il est encore là, mais à l'époque, il était à côté du métro Berry.
Alors, ils sont encore là, je peux vous le...
Sur Mont-Royal maintenant. Et c'était pour moi la fête, parce que là, j'avais un peu... c'était vraiment pas cher, c'est des livres usagés, mais j'avais le droit de revenir chez nous avec une caisse de livres, pratiquement. Ah. Et ça, c'était... à Noël, je recevais surtout des livres. C'était génial pour moi. Oui.
Alors, parlons-en un peu de cette Léa Olivier. Oui. Donc, 10 tomes. Alors, nous, on est rendus en version audio. Et là, je m'adresse à nos auditeurs qui, entre autres, passent par le SQLA, à nos auditeurs non-voyants, qui ont accès à ces livres audio adaptés. Léa Olivier, maintenant, nous, on a les 9 premiers tomes. J'imagine que le 10e doit être en cours de lecture, quelque chose du genre. Alors moi, j'ai le 9e sous la main, qui s'appelle « Résolution ». Je ne l'ai pas lu en entier, hein, je vous le confirme, mais je serais vraiment malhonnête en disant le contraire. Mais comme vous me l'avez dit justement, je ne suis pas vraiment le public cible. Par contre, je voulais savoir et je voulais comprendre, et j'ai compris pourquoi les adolescentes et les adolescents vous voient dans leur soupe finalement. C'est que vous êtes... On vous lit et on les écoute parler de toute façon parce que c'est épistolaire. Hein?
Mm-hmm. Oui, c'est épistolaire 2.0. C'est-à-dire qu'à l'époque, on s'écrivait des lettres. Maintenant, on s'écrit des courriels, on s'envoie des textos et on s'écrit sur Skype. Donc, on chatte, on clavarde français.
Oui.
Alors, c'est ça. Ma série, je l'écris sous forme de textos, de courriels, des longs courriels, car mon personnage principal, Léa Olivier, s'est inspiré de ma vie, en fait, justement, qui est originaire d'une petite ville que je nomme pas, doit quitter son patelin natal et s'installer à Montréal. Et elle est séparée de sa meilleure amie, Marie-Lou, à l'époque de son copain, de son chum. Et ça, on est dans le tome 1, vous comprendrez que rendu au tome 9, sa vie amoureuse a déjà vécu d'autres remous. Et pour moi, c'est important, justement, ce qui m'a manqué, moi, quand je suis déménagée, c'était le début d'Internet, c'était les gros modems qui faisaient beaucoup de bruit. Alors, j'ai pas pu garder le même contact que quelques années suivantes.
Oui.
Lorsque là, mais j'ai des amis, moi, au secondaire, qui sont... Une de mes meilleures amies est partie vivre en Suisse. Mais là, Internet était pratiquement ce qu'il est aujourd'hui. On s'écrivait une fois par semaine, deux fois par semaine, puis on est encore amis aujourd'hui. Donc, Internet a cette beauté-là. Et je me suis dit, c'est normal pour Léa. Elle quitte son patelin, mais elle peut rester meilleure amie avec Marie, sa meilleure amie, grâce à Internet. Alors, c'est des correspondances beaucoup entre les deux.
Exactement. Alors, donc, Internet, alors, par courriel, par texto, par... tous les moyens sont bons.
Oui,
hein? Absolument, tous les moyens sont bons.
Mm-hmm.
Ça doit être épuisant, je me disais, d'écrire ça à un moment donné. Parce qu'il y a toujours elle, lui, qui, c'est comme, un petit peu comme un dialogue, un petit peu comme une pièce de théâtre.
De théâtre,
et alors,
oui.
Et voyez-vous, je vais montrer et je vais vous l'expliquer. C'est qu'évidemment, chaque ligne envoyée par les uns et par les autres est encadrée. Hein, et donc, pour que la lecture du livre soit plus facile. Et je vois Marie-Lou en ligne, Léa en ligne, Marie-Lou à chaque fois... Ouh, ça doit être épuisant à écrire, ça, non?
Oui, en fait, ben, toute la partie qui est le plus dans le clavardage ou dans les textos, moi, quand je l'écris en format Word. Donc, c'est très... c'est dans la mise en page que eux, c'est là qu'ils travaillent, dans la maison d'édition. Je dirais, moi, dans les courriels, ce qui nous donne des mots de tête, des fois, c'est les dates. D'être sûr que je ne me suis pas trompée, puis c'est déjà arrivé dans le tome du tome 1 ou 2, on avait fait une erreur. « Ah non, ça, c'était le mardi, on est passé au mercredi, on n'est plus dans la bonne année.
Ah » Heureuse, oui.
Honnêtement, le premier tirage, il y avait une erreur de date. Personne n'a rien vu aller, on était contents. Parce que maintenant, Léa tire chaque tombe qui sort, on tire quand même à 40 000 exemplaires. Donc, c'est coûteux quand on fait une petite erreur comme ça. Mais puis des fois, ça arrive, il y a des coquilles, ça, c'est évident.
Ah ben
mais
oui, ça, c'est sûr.
C'est épuisant, mais après 6 ans, c'est devenu une deuxième peau, une deuxième nature pour moi d'écrire Léa. Donc,
Alors, c'est bien parce que maintenant que j'ai feuilleté largement ce livre-là, je sais notamment comment les jeunes se parlent, comme par exemple, « Tu as bien lu, ta bête est tombée dans les bas-fonds de la rejetitude. » Ou j'aurais peut-être dû dire la rejetitude, comme à ses tout premiers débuts à Montréal. On a l'impression que c'est des gens de 25 ans qui parlent, mais non, c'est pas ça du tout. C'est comme à mes débuts à Montréal.
Oui, j'écris, j'ai fait un... En fait, comment dire, j'ai pas essayé de sonner jeune. Je voulais pas... C'est écrit dans un bon français, ouais. Avec évidemment des expressions. C'est très drôle, Léa. Ouais. C'est touchant, ouais. Mais c'est drôle.
Ah oui, c'est drôle.
Et ça me ressemble. Donc, j'ai pas voulu essayer. Puis je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi.
Ah oui, non, non, mais c'est vrai que c'est drôle. Moi, il y a des fois où j'ai carrément rire aux éclats. Vraiment, ça me faisait rire. Comme je n'ai pas tout lu, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus. Mmh. Léa, bon, j'ai l'impression que les histoires d'amour occupent le premier plan.
Un des premiers plans.
Un des premiers plans.
Ouais.
Quels sont les autres? Qu'est-ce qui les préoccupe, ces jeunes adolescents-là?
Mais en fait, je dirais, au premier plan, c'est la quête de soi. T'sais, c'est ce qui bouleverse l'adolescence. Mm-hmm. Puis moi, c'est encore tellement frais. En fait, je pense que je ne suis pas encore sortie dans la trentaine. Mais c'est tellement compliqué de se définir à cette époque-là parce que le début du secondaire, je dirais, on essaie un peu de se fondre au moule. Et dès qu'on déroge du moule, ben, souvent, on se fait intimider, on se fait attaquer. Ouais. Donc, c'est très rare, les gens qui ont assez confiance en eux pour se dire « moi, je suis pas la mode » ou « moi, je pense pas comme ça ». À partir de secondaire 3-4, là, on peut commencer un peu plus à se définir indépendamment des autres. Et Léa, c'est un peu la progression qu'on voit au fil des temps, c'est qu'elle prend de l'assurance.
Elle prend de l'assurance.
Parce que moi, j'ai peut-être un petit peu moins pris au secondaire. J'ai voulu lui donner, avec l'expérience que j'aurais voulu avoir, un peu plus.
Est-ce que les parents sont très présents?
Sont très présents. Très, très, très présent.
Et le frère aussi.
Et le frère.
Félix, hein?
Félix, ouais. Moi, j'ai deux grands frères et je dirais que c'est un mélange des deux. Ouais. Surtout dans sa relation avec les filles. Parce que lui, il enchaîne les conquêtes et les blondes. Et tout est plus facile pour lui et comparativement à Léa. Et bon, je suis pas un garçon, mais j'ai l'impression que l'adolescence chez les filles, c'est on dirait qu'on rajoute une couche de drame, des fois.
Oui. D'ailleurs, il y a cette scène avec ça. Avec sa mère, à un moment donné, où, comme beaucoup d'ados, « Bon, maman, est-ce que je peux sortir ?» Et puis la mère dit « Non ». Alors, moi étant Léa, ouais. Moi, je me demandais d'ailleurs jusqu'à quand tu comptais m'interdire de sortir. Ma mère, en goûtant sa sauce pour la deuxième fois, avant d'y ajouter d'autres épices. « Jusqu'à ce que je juge que tu es dans la bonne voie. » Moi, ben là, je suis hyper concentrée à l'école, j'ai des bonnes notes, même en anglais, et mes séances de tutorat avec Mégane commencent dans 2 semaines. Tu peux pas avoir plus motivé que ça. Ma mère m'a regardé d'un air suspicieux. « Ma mère, qu'est-ce que tu veux, Léa ?» Moi, en joignant mes mains pour la supplier, « Obtenir la permission d'assister à la fête d'une amie samedi prochain. » Ma mère, en retournant à sa sauce, « Non !» Moi, « Mais maman, c'est super important que j'y aille !» Ma mère, « Pourquoi ?» Moi, « Parce que j'aime beaucoup cette amie. » Alors, et c'est comme ça tout le temps. C'est pour ça que je vous dis, ça doit être assez. Mais on retrouve tellement... En tout cas, je comprends que les jeunes aiment cette littérature-là parce que c'est eux. Vous incarnez ce qu'ils sont.
Oui, et ce qui est drôle dans ce passage, en fait, c'est que ça se termine
avec
au moment
Félix,
où on apprend qu'elle n'aime pas du tout cette amie-là. Tout ce qu'elle veut, c'est aller espionner son meilleur ami de qui elle est amoureuse, évidemment. Il y a souvent un gars derrière ça, c'est évident.
Catherine Girard-Audet, merci beaucoup. On espère 25 tomes à cette Léa Olivier. Et puis, merci d'exister pour nos jeunes qui adorent et qui se plongent dans ces bouquins-là. On n'a même pas eu le temps de parler du recyclage. Tant pis.
Oh, faudra me réinviter.
À bientôt.
Merci.
D'accord. Des livres pleins les oreilles, la suite. Dans Le Devoir, Daniel Lorrain écrivait, c'était le 10 janvier 2015, « Tout de suite, on est saisi, point, par l'intensité, point, sans comprendre vraiment de quoi il s'agit. Il y a bien un récit, mais qui sous-entend plus qu'il ne dit. Tout se passe comme derrière les mots, par allusion, allégorie. Dans Les filles bleues de l'été, premier roman de Michaela Nicole, étudiante en littérature de 22 ans. Michaela, bonjour.
Bonjour.
Vous avez quelques années de plus maintenant.
Ben oui.
Hein, c'est ça, mais à l'époque, vous aviez 22 ans.
Oui.
Quand vous l'avez sorti.
À la sortie du livre, oui.
Si vous me le permettez, parce que vous savez pourquoi j'ai choisi de citer Daniel Lorrain, parce qu'au moment où je lisais votre livre, je n'aurais pas pu trouver meilleur propos, meilleur mot pour dire ce que je ressentais à la lecture de Les filles bleues de l'été. D'abord, un petit retour en arrière pour que les auditeurs peut-être comprennent pourquoi je vous ai invité. Je suis tombée par hasard sur un papier dans un quotidien où on s'interrogeait sur Que lisent les étudiants sur les bancs des cégeps, sur les bancs des universités? Quels sont les livres que les professeurs de français, de littérature, leur mettent entre les mains? Et évidemment, ça m'intéressait, hein, puis vu que j'anime cette émission-là, des livres pleins les oreilles, et j'étais sûre de trouver, et j'ai trouvé Edmond Rostand, j'ai trouvé Alexandre Dumas, mm-hmm. j'ai trouvé, bon, Régent du Charme, j'ai trouvé... Et soudain, au milieu de tout ça, je vois Michaela Nicole pour Les filles bleues de l'été. Et là, je me dis, mais de quelle planète suis-je pour ne jamais avoir entendu parler d'un livre que lisent les étudiants au cégep et à l'université? Alors, curieuse comme je suis, j'ai tout de suite voulu en savoir plus. J'ai contacté votre maison d'édition, Le Cheval Doux, collection Coursière. Et puis, on m'a dit, mais oui, bien sûr, il faut l'inviter. J'ai dit, mais est-ce que c'est un livre pour les adolescents, pour les jeunes? Alors, ils m'ont dit, non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que c'est vraiment un livre pour les adultes, mais mm-hmm. que les universitaires peuvent se mettre entre les mains, bien sûr. Et j'ai donc découvert ce livre, Michaela Nicole, que j'ai lu en 2 heures peut-être, parce que c'est une petite tablette.
Oui.
128 pages. Mm-hmm. Et j'en suis ressortie absolument bouleversée. Et je voulais commencer comme ça cette entrevue parce qu'il y a des fois où on adore, on aime, etc. Mais là, c'est plus que ça. Juste, tenez, quelques lignes pour vous donner la parole juste après, d'accord? Ça commence comme ça. Je m'appelle Clara et je veux qu'on entende dans mon prénom les éclats de cet été tombés sur le sol gelé. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, voulez-vous que je vous le relise? Je vous le relis. Je m'appelle Clara. Et je veux qu'on entende, dans mon prénom, les éclats de cet été tombés sur le sol gelé. Que mon nom sonne comme un brise-glace dans la stérilité de l'hiver qui s'en vient. Je dis, oh, voilà une plume. En avez-vous conscience, Michaela Nicole, de cette plume?
On m'en a beaucoup parlé. Donc, ça commence peut-être à rentrer, finalement. ce qui est intéressant, dans le cas de Les filles bleues de l'été, bon, c'était mon premier livre. J'avais 21 ans lors de l'écriture.
Vous étiez encore aux études littéraires?
Oui, j'étais à ma dernière année de bac, je pense. Donc, c'était une écriture, c'est sorti très, très spontanément. Et puis, cette écriture-là précise, donc très poétique, ne s'est pas reproduite depuis. Donc, j'ai encore un penchant pour ce genre d'image-là et tout, mais c'était comme un souffle très spontané, en fait. Mm-hmm. Ça a l'air un peu mystique de dire ça, mais c'est vrai, ça s'est passé très vite.
Très peu de corrections?
On a travaillé dans la structure, en édition, évidemment.
Oui, oui, oui.
Mais moi, j'ai pas eu énormément d'essais-erreurs lors de l'écriture, je
dirais. Ah non, hein?
Oui.
Alors donc, il y a ces deux jeunes femmes, hein, puisque c'est le thème. Il y en a une qui est une écorchée vive au sens propre, comme au sens figuré, hein, d'ailleurs, parce qu'elle se scarifie. Hein. Et puis, il y a l'autre qui est un paquet de colère. C'est la colère incarnée.
Ouais.
Et ces deux femmes-là sont très amies. Et je vous laisse nous raconter la suite.
Ben, ça commence comme ça. En fait, les deux personnages s'appellent Clara et Chloé. Elles ne vont pas bien, de toute évidence. Et puis, elles parlent beaucoup. En fait, le récit alterne entre leurs deux voix. Et elles parlent beaucoup de l'autre, en fait. Donc, c'est comme si elles se regardaient dans un miroir, mais dans le miroir, elles voient leur ami. Oui. Et puis, elles racontent un peu l'histoire de l'autre et que ça s'alterne comme ça tout au long. Et donc, dès le début, elles décident d'aller s'expatrier en campagne ensemble dans un chalet où elles ont passé leur enfance, qui est le chalet des parents de Chloé. Et puis, elles passent comme ça un été, bon, un peu hors du monde, et puis le retour
beaucoup
à la réalité.
Hors du monde.
Oui, tout à fait hors du monde.
Et le retour à la source, à la terre. Enfin, j'ai des images lorsqu'elles marchent, par exemple, pieds nus dans la terre, sur les pierres, où elles apprennent à marcher sans se faire mal, dans la mousse, dans les bois. Elles s'allongent toutes nues. Elles vont puiser, finalement, la force dont elles ont besoin, l'une dans l'autre et dans la mer nature.
Donc, c'est ce qu'elles prétendent faire, c'est ce qu'elles avaient l'intention de faire, mais après, le retour à la réalité
les
rattrape quand c'est le temps de revenir en ville à l'automne.
Oui. Et là, bon, on n'aura pas besoin de s'étendre sur la fin. De toute façon, on s'en doute tout de suite au moment du retour. Mais bon, je vais laisser quand même le soin à chacun de s'y retrouver. Donc, il y a l'enragé et il y a celle qui se fait mal. Vous avez l'impression que beaucoup de gens vont se retrouver dans ces deux jeunes femmes-là. Parce que moi, j'ai eu l'impression que parfois, il y avait beaucoup de bouts de ma vie. C'est comme, ouais. Comme si on s'était déjà rencontrés. Et je suis sûre, je ne peux pas être la seule à penser comme ça, Michaela Nicole.
Oui, mais ça a été assez surprenant, en fait. C'est rare dans la littérature pour adultes que ça arrive. J'ai l'impression, ou peut-être pas rare, mais c'est moins fréquent que chez les adolescents ou chez les enfants. Mais j'ai reçu vraiment beaucoup de messages de personnes que je connaissais pas. En fait, puis ça a duré plusieurs années. Donc, tu sais, la durée de vie d'un livre, c'est variable. Souvent, après quelques mois, ça commence à s'essouffler. Il y a beaucoup, beaucoup de parutions. Mais moi, ça a duré plusieurs années où j'ai reçu des messages régulièrement d'inconnus, surtout des filles.
Bon, mais surtout si c'est lu dans les écoles, je veux dire.
Oui, ben c'est ça. Ça c'est touche ça. À un public, voilà. Des fois, qui est là pour apprendre. Il y a beaucoup de pédagogie autour du livre. Donc, oui, on m'écrit souvent.
Vous n'aviez sûrement pas conscience au moment de l'écrire que ça irait si loin. Est-ce que vous pouviez imaginer, vous, étudiante en littérature, que vos livres se retrouveraient au milieu de ceux d'Alexandre Dumas et autres? C'est quand même, c'est toute une aventure.
Non, je ne pouvais pas vraiment imaginer. Mais en fait, moi, ce qui m'avait plus... j'avais une surconscience de la vie en librairie d'un livre. Parce que moi, ça fait 6 ans que je suis libraire. Donc, je vois les livres, comment ils évoluent. Je vois la vitesse à laquelle on les évince ou on les remplace. Mm-hmm. Donc, moi, j'étais convaincue que, bon, si on en parlait déjà, ça s'essoufflerait après un mois ou deux. C'est pas du tout ce qui s'est passé.
Alors, ces deux filles-là, là, permettez-moi simplement d'aller peut-être lire quelques extraits à droite et à gauche. Bon, il y a donc cette histoire de sauvetage mutuel, du moins ce qu'elles auraient souhaité être, un sauvetage mutuel. Et par exemple, en page 30 ici. Un soir de crise, j'ai délivré mon amie de ses angoisses. Nous avons respiré ensemble jusqu'au plus profond de l'adolescence. Nous avons respiré jusqu'au fond du regard des autres. Je l'ai vue renaître. Chloé a crié avec une voix nouvelle. Elle a invoqué les esprits de l'été. Elle a dit « Nous allons survivre », défiant jusqu'à la haine cachée sous mes reins. Et nous avons couru. Elles y croient. Hein? Et nous aussi, d'ailleurs, à un moment donné, on dit « Oui, allez, elles vont s'en sortir. Elles vont... parce que c'est vrai qu'on y croit à ce moment-là, à leur survivance, à leur renaissance.
Oui. Ben, elles ont l'air de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Elles s'aiment assez entre elles pour que ça marche. Mais c'est aussi un piège, en fait, qu'elles se sont tendues en allant seulement les deux ensemble s'isoler parce que les deux ne vont pas bien, finalement.
Non, c'est ça, exact. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, les pauvres chouettes. J'ai noté page... Ah oui, ça, c'est tellement beau. Page 34. Je me souviens plus où c'était, puis j'ai repensé à la chanson de... Comment il s'appelle, Monsieur Ferland, Une chance qu'on ça. Et à un moment donné, vous lancez très, très bien dans une phrase. Nous avions. Et j'ai trouvé ça tellement, tellement délicieux que je l'avais surligné. Je me disais aussi, avec une écriture pareille, vous n'avez pas envie d'écrire des chansons. Moi, il me semble que s'il y avait des musiques parfois là-dessus, là, ce serait fantastique.
J'ai jamais pensé, mais en fait, les films de l'été, à la base, c'était beaucoup des poèmes qui, ont été mis en prose et puis on a mis de la chair autour de l'os. Ben, j'ai mis.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ça, ça a été versifié à plusieurs endroits. C'était pas des chansons, mais c'était des vers.
C'était des vers. Ben moi, je serais vous là, si vous connaissez quelqu'un musicien. À côté de vous, vraiment, j'irai lui proposer ça. Ça ici, il ventait beaucoup, les arbres craquaient, l'eau était agitée de vagues, alors elles sont dans ce chalet. Ils ont persisté à ramer ensemble jusqu'au milieu du lac, donc il y en a une des deux, c'est Chloé qui voit Clara, qui retrouve son amant, qui pensait... elle pensait qu'il l'avait abandonnée parce qu'il faut dire que pour elle, il n'est qu'un amant, mais ce type-là a une femme dans la vie. Et donc, ils s'en vont faire un tour de barque et Chloé est sur la grève. Et elle raconte, elle dit « Les arbres craquaient, l'eau était agitée de vagues, ils ont persisté à ramer ensemble jusqu'au milieu du lac. J'ai vu l'embarcation s'éloigner sur l'eau trouble et l'expression solennelle de mon ami. quand Clara a remonté sa rame dans sa barque et qu'elle a posé ses mains trempées sur les cuisses trempées de son amour. C'est lui qui s'est mis à parler, et le visage de mon ami a coulé au fond de l'eau. C'est magnifique. Moi, je lui dis, moi, il me semble que je mettrais ça en musique. Il y a cette page 89 aussi qui est terrible. Je précise que je viens seulement de recevoir la version papier et que j'ai lu le livre en version PDF et donc j'ai pas pu prendre de notes comme je le fais toujours sur mes livres. Mais lorsqu'elle recommence à tomber finalement à l'automne, hein, lorsqu'elles s'en vont, elle quitte le lac, elle quitte le chalet et il y en a une qui dit la soirée, bah c'est Clara. La soirée s'est mise à tourner d'elle-même. Le froid du dehors s'est mêlé au froid du dedans. Chloé est sortie des toilettes, elle est venue me rejoindre au salon. Nous buvions comme pour remplir un lac. Et tout est comme ça. Tout est comme ça dans ce livre absolument merveilleux. Alors, voilà, Michaela, c'est pour cela que je voulais vous inviter. Je voudrais inciter les gens qui nous écoutent, les personnes non-voyantes. Ce livre est maintenant disponible via le SQLA. Les personnes voyantes, allez vous chercher ce livre. Il existe en poche maintenant.
Oui, c'est tout nouveau.
C'est vrai, c'est tout nouveau.
Donc, à l'automne, j'ai publié mon deuxième roman, Aphélie, à la même maison d'édition. Et par
Ophélie,
la même... Aphélie. Ouais. Et par la même occasion, on a fait Les filles bleues de l'été en format de poche.
Alors, Les filles bleues de l'été de Michaela Nicole, N-I-C-O-L. Michaela, merci beaucoup. Je vous en supplie, continuez.
Merci de m'avoir reçu.
Oh, de rien, Michaela. Puis continuez d'écrire.
Je continue, oui.
Je vous en supplie, parce que sinon, je vais avoir un gros manque dans ma vie. Dans quelques secondes, je vous lis les premières pages de ce livre à l'extrait du jour à l'émission de Livres plein les oreilles. Je m'appelle Clara et je veux qu'on entende dans mon prénom les éclats de cet été tombés sur le sol gelé, que mon nom sonne comme un brise-glace dans la stérilité de l'hiver qui s'en vient. Je ne peux pas pardonner aux jours d'avoir retrouvé leur captivité. Nous avions réussi à fuir la séquence, mais on nous a prises par la nuque pour nous déposer dans le courant. La vie est redevenue une rivière triste qui charrie nos morceaux de banquise. Le temps n'a plus le droit de s'arrêter pour qu'on le regarde dans les yeux. Le soir vient maintenant, au milieu de l'après-midi, symptôme de l'hiver qui tranche le monde. Les gens en sortent, rentrent. Du fond de mon lit, je le sens, ce mouvement qui emporte mes amis, les hommes, mes parents. D'un même geste, nous restons vivants, réguliers. Il ne faut jamais s'inquiéter. Je passe des journées la tête dans les cauchemars. Quand vient la nuit, je prends racine dans des sols qui ne me ressemblent pas. Les grandes cages, les rendez-vous, dire oui et non, la bouche en forme de gouffre, et dire merci, plus que nécessaire, dire merci à mes geôliers. Dans les rêves, je ne peux plus bouger malgré le haut de mon corps qui veut aller par le vent. Je me réveille lorsque le soleil est déjà couché. Une petite honte me monte à la gorge. On nous a inculqué que chaque jour sert à construire le prochain. Et moi, je perds mon temps. L'automne s'est installé pour de bon. Là, je fais une petite ellipse. Je m'appelle Clara. Je suis épuisée de chagrin. Je suis lourde de haine. Je m'appelle Chloé et j'aimerais que mon nom, prononcé à voix haute, rouvre les cicatrices, qu'il rappelle l'haleine de la saison perdue. Le soir est tombé sur moi comme un bloc, je me suis laissé prendre de force. La campagne a agi comme une pause sur mes peurs, un souffle de pluie pour alimenter les fournaises de nos corps. La plus belle saison de notre vie au fond de la forêt la plus chaude que j'ai connue. Mais ce n'était qu'un répit. Aujourd'hui, les gens se sont mis en mouvement. Ils mènent l'existence que l'on voulait qu'ils mènent. De mon lit, j'ai senti ce temps morne porter mes amis, les femmes, mes parents. Cet été, j'avais découvert ce qu'était vivre, avec mes membres de filaments fragiles, ma peau de muqueuse mince, mes organes au tissu délicat. J'aurais pu sentir mon corps pour la première fois à travers ces fenêtres toujours ouvertes qu'étaient mes sens. Clara et moi retournerons dans la forêt, la plus chaude que nous n'ayons jamais connue. Et elles vont y retourner. Les filles bleues de l'été, un incontournable de Michaela Nicole. Et je suis ravie tout de suite d'avoir au bout du fil Yannick Olassa. Bonjour Yannick.
Bonjour Clotilde.
Yannick,
mais
vous...
Mais quelle plume, ah. Michaela.
Hein?
Si, merci.
Ah mon Dieu, mais quelle plume.
Mais quelle plume, hein? Je le savais aussi Yannick. Je suis contente que vous ayez pu l'entendre cet extrait parce que je savais que l'amoureuse des mots que vous êtes
oui.
allait comme moi complètement craquer, quoi.
Hein? Tout à fait, hein, tout à fait.
Alors,
j'ai Aphélie là, que je dois lire bientôt, que je vais lire.
Ouais.
Je
ne
dois pas le lire, mais que je vais lire bientôt. Là.
Ouais.
Et puis, j'ai bien hâte de retrouver sa plume.
Ah, ben écoutez, moi de même. Moi de même. Alors Yannick, on est obligé maintenant de laisser un petit peu l'univers de Michaela Nicole. Oh, on s'en va dans un autre univers, hein, sombre aussi. Très sombre.
Complètement. Très, très, très sombre. Et effectivement, c'est le roman Chambre noire de Nicolas Charette. Ce n'est pas nécessairement un roman pour tout le monde, mais pour les gens qui aiment les romans qui sont axés sur la psychologie humaine, là, comme moi, je pense que vous l'avez remarqué.
Oui, certainement.
C'est un très bon roman. En fait, l'auteur rapidement nous fait entrer à pieds joints dans la tête de Victor, qui est un photographe mi-vingtaine. Il est complètement désabusé, alcoolique. Il a du mal avec ses relations avec les gens. Son objectif... lui sert en fait d'obstacle entre le monde et lui. Il observe les gens généralement avec son appareil photo.
Oui.
S'il les observe sans son appareil photo, il va toujours rester éloigné parce qu'il a peur de ce qui pourrait se révéler dans la proximité avec les autres. Il fait beaucoup de clichés d'itinérants parce qu'il aime voir cette détresse, essayer de comprendre ce qui peut y avoir derrière tout ça. Et il a beaucoup, beaucoup de démons. Et pour les exorciser, en tout cas, à tout le moins endiguer le trouble qu'il ressent, il va écrire une longue lettre à son amie Nina, dont on ne sait pas grand-chose. On sait qu'elle habite Berlin.
Mmh.
Et le roman, c'est ça, en fait. C'est cette lettre-là.
Okay.
Qui écrit à Nina. Et dès le début, on sent son mal-être, son malaise. Mmh. On essaie d'identifier pourquoi, de comprendre pourquoi. Et ça va s'intensifier de façon fort émouvante jusqu'à la fin.
Rappelez-nous le titre, s'il vous plaît, parce que
Chambre noire.
Chambre noire et l'auteur, c'est...
C'est Nicolas Charette.
D'accord, Nicolas Charette. Non, je le répète pour les gens qui nous prendraient peut-être en cours de route. J'aime bien, qu'on leur rappelle tout de suite de quel livre on parle. Alors, je vous laisse aller, Yannick.
En fait, dans cette lettre-là, il va lui confier ses visions, son mal-être, sa soif inépuisable, hein, parce que, je rappelle, il est alcoolique, et ses baises. Puis je dis bien « baise », c'est un mot que j'ai choisi, parce qu'on pourrait pas référer aux actes sexuels auxquels se livre à l'aide de l'expression « faire l'amour ».
Non,
on
je comprends.
Loin de là. Mmh. Il a clairement des tendances sadomasochistes. Il y a une amie, et là je le mets en guillemets, une amie Jade, qui prend généralement violemment et avec mépris. Puis il ne fait rien d'autre avec cette femme-là parce que de toute façon, ce serait trop de proximité.
Hein, okay.
On le comprend, il est vraiment troublé.
Ouais.
Il est emprisonné dans ses réflexions, il est vraiment omnibulé par ses pensées, par son besoin de tout comprendre.
Mmh.
Et bon, ça nous fait penser, hein, des fois, on se laisse aller dans tout ça, hein, dans nos pensées. Et puis, quand on est plus ou moins occupé, on se rend compte que ça prend vraiment beaucoup de place. Mais lui, c'est ça l'histoire, c'est qu'il aurait tout pour être heureux, hein, mais il y a un manque, il y a une espèce de gouffre intérieur et son emploi de photographe lui donne beaucoup trop de temps pour se perdre dans ses ruminations. Et là, il commence à avoir des fantasmes plutôt violents, c'est-à-dire que son ami lui a donné un fusil. Et là, il commence à s'imaginer se promener dans la rue et tirer ça sur les gens.
Comme on a vu certains... Enfin, bon,
tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a toutes sortes de phénomènes sociaux qui se passent. Et là, on entre vraiment... Moi, j'aime beaucoup comprendre l'être humain, comprendre...
Pourquoi il en arrive à des... Voilà.
Hein, tout à fait. Et là-dedans, ben, on est vraiment plongé là, dans l'esprit de Victor. Et on arrive à comprendre que ce garçon-là, ce jeune homme-là, a un potentiel de dangerosité assez élevé. Parce qu'il est dans l'autodestruction, hein, et bon, comme beaucoup de gens qui sont dépendants à quoi que ce soit, à l'alcool, aux drogues, on se promène entre le sentiment de « je suis le roi du monde » et « je suis le pire des nuls ».
Oui, oui, oui. Hein?
Et la drogue, justement, ou l'alcool vient comme une forme d'automédication pour régler essayer de régler les troubles intérieurs. Malheureusement, la réponse, elle n'est pas là.
Elle n'est pas là, non, c'est ça.
Il va s'en rendre compte.
Alors, l'écriture, pour parler au niveau de l'écriture de Nicolas Charette?
Oui, ben c'est très simple, très juste. Aucune fioriture, pas de lyrisme, pas d'image, pas de poésie.
Tel que. Oui. Il faut dire que le gars n'en a pas beaucoup non plus de la poésie, finalement. Quoi. C'est juste bien suivi.
Non, pas du tout. Hein, c'est une écriture qui est hyper réaliste. Et on est vraiment là, dans cette veine-là, si vous voulez.
Oui, oui, oui.
Et
oui.
Je vous dirais là, que c'est magnifique pour vraiment comprendre sur les rouages du mal-être profond. C'est un récit qui est lucide, qui est fort, mais qui nous fait vraiment saisir là, comment s'engrange la dépendance et comment elle se maintient en
exactement
place.
Eh bien, écoutez, fort passionnant tout ça. Chambre noire de Nicolas Charette, présenté pour vous aujourd'hui par Yannick Olassa. Yannick, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et vous dire à bientôt sur les ondes.
Oui, à bientôt. Et la prochaine fois, je vous amène complètement ailleurs.
Ah, OK. Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût? Est-ce qu'on peut savoir de qu'est-ce que c'est? Non?
Ben, il s'agit du roman Boo de Neil Smith. Alors, on est totalement dans un autre registre.
Parfait. Alors, bonne lecture, Yannick, et à bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Quelques mots sur mon invité de la semaine prochaine. Dominique Bertrand sera en studio pour nous présenter Le cœur gros. Je vous avouerai que c'est un sujet, quand j'ai su de quoi il s'agissait dans ce livre-là, j'ai tout de suite eu beaucoup d'intérêt. Un livre que j'ai entre les mains, que je n'ai pas encore lu, que j'ai une petite semaine là maintenant pour le lire. Le cœur gros, permettez-moi de vous lire la quatrième de couverture qui nous dit « Ariel a 11 ans ». Mais elle sent déjà son avenir se refermer sur elle, enserrer son corps obèse, qui ne correspond pas au canon de la beauté qu'incarnent sa mère et sa sœur. Élevée dans un milieu privilégié où l'apparence fait loi, privée depuis peu du soutien de sa grand-mère, sa seule véritable alliée, elle se gave de nourriture pour combler le vide de plus en plus grand qui l'envahit. Et dans sa bouche, les phrases « chippées aux adultes qui oublient trop souvent sa présence » prennent un tour grinçant. Les morales à l'eau de rose dont elle se régalait avec mamie tournent au vinaigre. Entre ses doigts potelés, l'archet du violoncelle tangue avec grâce, mais l'amour s'obstine à filer. Que reste-t-il à espérer quand on a comme elle le cœur et le corps gros? Ce sont les questions que je pourrais poser à Dominique Bertrand, qui a donc signé ce livre « Le cœur gros » que je vous présente la semaine prochaine. « Je vais tout de suite commencer avec Chanson douce de Leïla Slimani, un livre que je n'ai pas encore lu, mais j'ai tellement hâte de le faire. Rappelons-le, c'est le Goncourt, le prix Goncourt 2016. Chanson douce de Leïla Slimani, un livre pas facile, qui a aussi obtenu le Grand Prix d'électrice Elle, roman 2017. Petit résumé, lorsque Myriam, la maman de deux jeunes enfants, décide, malgré les réticences de son mari, de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Et après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Et peu à peu, le piège de la dépendance mutuelle va se refermer jusqu'au drame. J'ai tellement hâte, il fait partie de la pile, de la tour de Pise que j'ai sur ma table de chevet. Je vais bien finir à un moment donné par le lire, mais en tout cas, sachez qu'il existe déjà en version audio adaptée. J'avais aussi envie de vous parler d'un livre qui s'appelle, je vais retrouver ma page, et non, je ne la retrouve pas, mais ici, je vais la... Voilà, ici, « Aussi longtemps que les rivières couleront » de James Bartleman. En proie à un cauchemar, Martha est redevenue enfant et se trouve de nouveau au pensionnat indien de la baie James, où elle a vécu pendant une décennie de 6 à 16 ans. Vous aurez compris quel est le thème principal de ce livre-là. Le prêtre qui l'a convoqué à son bureau pour une séance spéciale d'enseignement spirituel est en train de l'agresser sexuellement. Elle est terrorisée. La petite fille qu'elle est dans son rêve essaie d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sort de sa bouche. C'est un livre qui fait, nous dit-on, partie des incontournables pour entreprendre une réconciliation véritable avec nos frères et nos sœurs des Premières Nations. Voilà, on se quitte là-dessus. C'était Clotilde Say qui remercie tous ses invités, Michaela, Nicole, Catherine, Gérard Audet, Yannick Olassa et Gérald Cousineau. Merci à Mathieu Tessier en régie. C'était Clotilde Say qui vous dit bonne semaine, bonne lecture.